Chyba.
C'est comme
très mal.
Ça va aller très mal.
Je suis d'accord avec toi.
T'es totalement...
Et là, j'accumule.
Pas plus haut que le bord.
Salut, salut à tous, pas plus haut que le bord, c'est ici et maintenant. Une émission de Radio Mon Pays, en direct et en public. Oui, en public depuis le bar, le Tiondon. Les deuxième et quatrième mardis du mois de 20h à 21h. Un rendez-vous où l'info, l'actu, les faits de société, l'économie, la politique, la géopolitique seront décortiqués, expertisés avec la plus grande liberté. De l'humeur, de l'humour, des coups de gueule, de l'impertinence, bref, de la subjectivité.
Pas plus haut que le bord.
Il y a des modes comme ça qui donnent envie de lâcher quelques coups de boule, d'exploser quelques tarins. Des modes qui ne sont pas des marronniers, mais qui donnent quand même envie d'envoyer quelques prunes. Depuis que le patron de France Télécom nous parle d'une mode des suicides dans son entreprise, 23 morts depuis février 2008, moi ça me chatouille un peu, ça me démange la boîte à gifles. Enseignés dans les grandes écoles qui forment nos chefs, les méthodes de management ne font pas dans le détail pour éliminer, stigmatiser, détruire ceux qui ne rentrent pas dans le moule libéral et qui ne sont finalement que des variables d'ajustement, comme le dirait CSP sur son blog. Même Christophe Barbier, le drôlissime rédacteur en chef de l'Express, joue le pédagogue averti. Bon, avec sa tête de premier de la classe, il rame un peu, mais il en fait des caisses pour nous expliquer les... Et il faut bien avouer qu'entre un trou du cul en cravate et un autre aussi en cravate, va falloir utiliser la technique du rebond pour éclater leur gueule. De quoi ? Qui y a-t-il ? On me parle ? Mais où suis-je ? Je m'étais assoupi. Non, juste un rêve, un drôle de rêve. Je ne prônerai jamais la violence. C'est pas mon genre. Et si le bon docteur Freud était là, il vous expliquerait que cette violence endormie me ramène à mon enfance. Et que je n'assume pas de n'être pas entré à Subdeco ou à l'ENA. Oui, absolument. Bon, allez, maintenant que je suis réveillé, c'est malin d'avoir allumé la lumière, Yann, un sujet pour rigoler. La grippe H1N1, dite grippe A. C'est pas fun ça comme sujet ?
Si,
n'est-ce pas ? D'abord, je me réjouis toujours de voir Roselyne. C'est un peu ma chef scout préférée dans le gouvernement. Pourvu que Sarko la garde encore. Toujours un bon mot, une gravité dans le regard. On est entré dans l'épidémie. Non, Roselyne, arrête, je flippe trop. Putain, et dire que c'est encore ces mecs à sombrero qui nous ont refilé leur saloperie avec leur port industriel. Mais pourquoi ils nous font de la bouffe de merde comme ça ? Ah, ça rapporte du blé, bon, ok. Et puis le labo qui fait le vaccin, il expose en bourse ? Ah bon, ok. Et pendant ce temps, Roselyne fait passer en douce sa réforme sur la santé avec suppression de postes, suppression de lits, augmentation du ticket modérateur, appel au privé. Ok. Ah, le privé. Il va nous sauver comme à France Télécom, c'est sûr. Vous avez remarqué comme c'est vachement mieux depuis qu'il y a le privé, hein ? On paye 10 fois plus cher et on est content. C'était comment la chanson déjà ? Ah oui, je suis cocu, mais content. Voilà, il y a de l'écho en plus, c'est parfait.
J'adore chanter.
Mais oui, c'est sûr. Mais, l'actu ne serait plus l'actu s'il n'y avait pas notre couple tonitruant Sarko-Sego.
Ah.
Ah oui. Ces deux-là, s'ils font un jour une portée, faudra tous les noyer. Et quoi encore ? Sigmund, encore un rêve méchant, vite, fais quelque chose. Vous avez vu, Sego, elle relance son désir d'avenir. Ça donne vachement envie, non, son truc ? Et puis, il paraît que, selon son pote Georges Frêche, vous savez, le socialo-facho de l'euro, qu'elle est la seule à déplacer les lignes. Jojo. C'est pas autorisé, ça. Si t'as de la blanche, tu te la gardes. Nous, on veut garder notre madone intacte, pourvu qu'elle continue son travail de sape de la gauche la plus à droite du monde. Et Sarko, et Sarko. Heureusement, il est là pour moraliser le capitalisme, et on y croit. Et on y croit, mais si, j'en vois qu'ils sont sceptiques.
Ben oui, quand même. Oui.
Dubitatif, même.
Voilà, presque.
Dans le conflit entre la direction américaine de Molex et les salariés, regardez tout ce qu'il fait. Sur les 283 salariés, 15 vont garder leur boulot. C'est pas de la morale capitaliste, ça? Et l'ancien directeur Kellyou, l'ex-séquestré, qui rappelle que pour toucher la prime de licenciement, les salariés doivent s'engager à ne pas faire de violence physique, ni d'empêcher le déménagement des machines. C'est pas de la bonne morale, ça, hein? Ah, ça me reprend. J'ai la machine à bourre-pif qui veut repartir. Docteur Freud, maintenant je rêve éveillé. Et...
pas plus haut que le bord.
Et autour de la table, dans Pas plus haut que le bord, en direct depuis le petit London, nous avons quelques chroniqueurs. Alors, dans l'ordre d'apparition, Serge. Salut, oui. Serge.
Bonsoir à tous.
Ensuite viendra CSP, salut CSP.
Salut.
Laurent.
Bonsoir.
Ah, Laurent qui est très en forme. Nous aurons Nico Nito qui chantera deux chansons. Il y a également Eric parmi nous. Salut Eric.
Moi je suis assis sur les genoux des autres.
Oui mais bon, on sait bien que tu as besoin d'un câlin le soir à cette heure-ci.
Bon, le problème c'est que c'est moi qui...
Je suis trop Nito, ouais. C'est difficile de le dire, mais je suis trop Nito.
L'interdiction faite à un avion de ligne d'Air France au mois d'avril de survoler le territoire états-unien à cause d'un passager indésirable se trouvant à bord et figurant sur la no-fly list qui interdit à un certain nombre de personnes...
C'est des intégristes.
Mais bien sûr.
Au moins.
Un terroriste.
Ah.
De se rendre, voire de survoler le territoire des États-Unis. Et c'est le cas parce que le vol Paris-Mexico ne se posait pas sur le sol US. On vole en plein délire. Cette personne s'appelle Hernando Calo Ospina.
Ah oui.
D'accord. Écrivain et journaliste colombien, correspondant du monde diplomatique, envoyé par le journal faire un reportage sur le Nicaragua, où il se rendait. C'est un ami également de Maxime Vivas, que l'on salue,
que
les chroniqueurs qu'a le tal lui permet, à pas plus haut que le bord.
Et qui a écrit de nombreux ouvrages, d'ailleurs.
Et qui a écrit de nombreux ouvrages.
Qui va se rendre d'ici peu au Venezuela pour travailler sur, pour écrire un bouquin sur les médias au Venezuela.
Exactement. Et alors Calvo Ospina, lui, plaçait des bombes, par contre.
Mm-hmm.
Mais par journaux ou livres interposés, uniquement. Et notamment sur la relation étroite entre Uribe, qui est le président colombien, et le narcotrafic.
Ah oui, alors là, rappelons quand même d'où il vient, Uribe, et qui était son père.
Son père était un... Ah oui, non, on n'attaque pas la famille, mais ça dépend laquelle. Son père était un ami intime de Pablo Escobar, que tout le monde connaît.
Oui.
Les paramilitaires et aussi la CIA. Il a attaqué la CIA à travers des bouquins et il écrit un bouquin sur Cuba. Donc, vous m'en direz tant que cette personne ne soit complètement...
Oui, et son père, il a été aussi... Oui, c'est ça, il était un des responsables des paramilitaires.
Oui, tout à fait, oui, absolument. Oui. Donc, on en arrive au coup d'État au Honduras, bien sûr.
Oui.
On va le passer sous silence, celui-là. Alors,
mais pourtant, ce coup d'État, il a été passé sous silence par les médias occidentaux.
Ben, C'est-à-dire que c'est le summum de la désinformation, justement. Mm-hmm. C'est-à-dire que la droite, appuyée par l'armée, vire le président démocratiquement élu, Manuel Zelaya, pour avoir transgressé la constitution hondurienne, paraît-il. En effet, les médias occidentaux nous annoncent que le président Zelaya voulait briguer un nouveau mandat aux élections de novembre et que c'est pour cela qu'il fut destitué. C'est comme ça que nous ont vendu les médias occidentaux, en tout cas.
Ça nous va être comme ça chez nous.
Aux ordres de l'Empire.
Ça, c'est Eric, là.
Ouais.
Il nous fait quelques petits commentaires comme ça, succulents, Eric.
En fait, le tort, si je puis m'exprimer ainsi, de cela, il est double. Un, il augmente le salaire minimum de 60%.
Mm-hmm.
Imaginez en France,
ah oui,
que notre cher président augmente le salaire minimum de 62%.
C'est espéré, on va demander ça.
Ça fait rire. Et surtout, il demande une consultation populaire afin que l'histoire ne s'inverse pas, comme je disais tout à l'heure. Ah. Où la question était, êtes-vous d'accord pour qu'à l'occasion des élections générales de novembre, donc à travers un référendum, hein, une quatrième urne soit installée pour décider de la convocation d'une assemblée nationale constituante qui approuverait une nouvelle constitution. Alors, je vous rappelle que le Honduras fait partie de l'ALBA, l'alternative bolivarienne, comme le Venezuela, Cuba, l'Équateur, la Bolivie, etc. Ils sont neufs en tout et pour l'instant.
Rappelons quand même que c'est mis en place, enfin en tout cas, c'est à l'initiative de Chavez, ouais, président vénézuélien.
Tout à fait, oui. Donc sur le continent américain, on ne consulte pas le peuple.
Mmh.
C'est bien connu, du oui, même pour les pays de droite comme la Colombie, où le président Uribe, lui, veut faire passer en force ça, sans consultation du peuple, justement, un changement de constitution à peine de se représenter. Ça fait deux poids deux mesures. Nos médias ne s'insurgent pas de ce qui se passe en Colombie, mais attaquent systématiquement les gouvernements progressistes. Les États-Unis s'offusquent officiellement du coup d'État, mais officieusement, et derrière, sont derrière, le putsch année sa signature. L'implantation de cette base militaire US en Colombie nous ramène à la triste réalité des années 70-80 en Amérique latine. Si les USA ne peuvent pas contrôler l'Amérique latine,
ils peuvent prétendre réussir un nouvel ordre mondial.
Donc ça veut dire que c'est toujours la base arrière des Nord-Américains, l'Amérique latine, et que là, évidemment, ça coince.
Depuis la doctrine Monroe de 1823, je crois, si mes souvenirs sont exacts, ils ont toujours considéré le sous-continent, comme ils l'appellent, ça fait partie de... C'est chez eux, quoi.
Oui, ce sont leurs républiques bananières, quoi.
Mais notamment le Honduras, oui. Parce que Chiquita, United Fruits, tout ça, ça sort du Honduras, hein. Donc, les gouvernements progressistes d'Amérique latine deviennent de fait des narcoterroristes, pardon. Le président bolivien Evo Morales l'a souligné récemment, je cite, « Quand ils ne pouvaient plus nous traiter de communistes, ils nous ont traités d'agitateurs, puis de trafiquants de drogue, et depuis le 11 septembre de terroristes. L'histoire de l'Amérique latine se répète. » Et j'en ai bien peur.
Oui.
Voilà.
Et mais... qu'est-ce qu'il est devenu là,
un marceau terroriste.
Quoi ?
Un marceau terroriste.
Ouais. Non, Eric, un narco. Un narco, tu sais, qui vend de la drogue et tout ça.
Narco-terroriste.
Hein. Ces gens-là qui produisent de la drogue, qui la vendent. Et voilà, c'est ça. Hein, un peu de pédagogie, ça fait pas de mal, c'est sûr.
C'est formé par d'autres.
Oui, bien sûr. Mais
on sait qu'il y a derrière ces gens.
juste rappeler que ce président, donc, il a été élu démocratiquement, le président du Honduras, donc il y a eu un vrai coup d'état.
Oui.
Et ici, dans nos médias occidentaux, finalement, on en a très peu entendu parler parce que c'est finalement quelque chose de banal. Hein. C'est comme si c'était quelque chose d'habituel, quoi. Oui, on considère que c'est normal qu'il y ait un coup d'État dans ces pays-là.
On commence par le Honduras avant de s'occuper d'autres de pays plus importants, quoi, comme le Venezuela, comme l'Équateur.
Parce qu'effectivement, c'est ça l'inquiétude.
Mais bien sûr. Et de toute façon, le déploiement de cette quatrième flotte américaine n'est pas là. Enfin, et les sept bases en Colombie sont là pour justement justifier l'intimidation ou le recours à la force. À mon avis, le Brésil. Alors, justement, aujourd'hui, par rapport à cela,
il y a une actualité aujourd'hui.
Ah, ben, il y a une grosse actualité, c'est qu'il est revenu au Honduras, à Tegucigalpa, la capitale, et il est actuellement dans l'ambassade brésilienne de Tegucigalpa. C'est Lula et son ambassadeur qui l'ont ramené à Tegucigalpa. Ça c'est quand même énorme.
C'est incroyable ça.
Ouais, alors c'est énorme, d'autant plus que les Brésiliens, si tu veux, avaient demandé quand même à Uribe des précisions concernant ces bases militaires américaines, parce qu'elles sont, la plupart sont vers la frontière vénézuélienne, évidemment, et la frontière brésilienne, tout simplement parce que toutes les ressources de l'Amazonie les intéressent. Et les Brésiliens ont absolument pas aimé cette façon de faire. Donc ils leur ont fait savoir. Et là, je pense que c'est un pied de nez, quoi. Donc ça remet un peu en cause ce que je disais précédemment. C'est-à-dire que je m'étais trompé, mais je sais pas finalement si réellement je me suis beaucoup trompé, parce que les pays latino-américains sont en train d'essayer de s'émanciper, quoi.
Oui.
Parce que là, tout le monde est contre. Sauf que le FMI a donné 170 milliards de dollars au Honduras pour pouvoir se reconstruire de façon...
sous condition, j'imagine.
Ben, libérale, bien évidemment.
Sous condition de plans d'ajustement structurel tels qu'ils se sont déroulés dans les autres pays auprès desquels ils ont prêté de l'argent, quoi.
Mais je pense, si tu veux, que c'est là qu'il va revenir. Maintenant, il sera... peut-être un peu moins en position de force que ce qu'il était précédemment.
Un commentaire, Eric ?
Ouais, moi je trouve ça que, enfin, tu vois, quand j'entends ça, je dis que les Américains, quand même, ils ont vraiment des bons problèmes, quoi. Parce qu'en fait, ils sont entourés par des gens qui sont quand même des mauvais élèves, alors qu'ils leur ont tout donné. Alors que nous, en France, on n'a pas ce problème-là avec l'Afrique. L'ordre règne en Afrique. C'est-à-dire avec des démocrates, des présidents démocratiquement élus, sans aucune.
Ah, oui.
Et les Ali Bongo.
Voilà, les fils de leur père.
Ah oui, au Gabon, Paul Biya au Cameroun. J'en passe d'autres, il y en a d'autres. Oui, le fils est Yadema. Au Togo aussi, des gens vraiment très très bien. Toujours élus de père en fils, mais dans la plus claire, grande transparence et franchement sans aucun coup de pouce de la France. C'est ça qui est bien.
Mais oui,
c'est... parce que la France-Afrique a disparu, France... bien sûr.
Non,
mais depuis Mitterrand, depuis 80, Mitterrand, il n'y a plus de France-Afrique, ça, c'est de la calomnie. Maintenant, c'est la démocratie, l'ouverture.
Voilà.
Monsieur CSP.
Non, pas mieux.
Pas mieux ? Pas mieux ?
Ouais, non, pas mieux.
Mais alors.
Déjà, j'ai pas de notes. Donc...
Alors. On va avoir évidemment un grand moment parce que Nico Nito, vous connaissez chacun Nico Nito.
Oui, hein, la grande classe.
Va évidemment nous pousser la chansonnette et plus que ça, alors rappelons, il s'installe.
Juste la chansonnette. Hein,
non, mais vous avez, il s'installe sur son tabouret, prend sa guitare, accroché à son museau un harmonica. Et en même temps, rappelons quand même que c'est un chanteur extrêmement populaire ici à Toulouse. Hein. C'est une vedette presque. Et on va écouter.
Mais il est à deux doigts d'exploser là.
Oui, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui est en même temps modeste, hein, je dis ça. Hein. C'est Yann qui faisait un commentaire, évidemment.
Il est humble.
Il est humble.
On l'aime parce qu'il est humble.
Tu es prêt, Nico ?
Je suis tout à fait prêt.
Allez,
c'est une chanson d'amour, je crois, qu'il va nous faire.
D'amour engagé.
Nous t'écoutons.
J'adore les chansons.
Thank you.
écoute ta joie. Encore perdu contre ma joie.
Nico Nito, c'était Nico Nito, mais t'as une actualité, je crois. Raconte-nous tout. Tu vas jouer, tu sors un disque, c'est la fête, quoi.
Ouais, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Nelson.
Toubab. Attends, répète, on n'a pas
bien. Un groupe qui s'appelle Nelson Toubab et on sort un disque en novembre.
Et tu vas te produire.
On se produit, voilà, c'est ça, à l'Arsène Lupin. Non, je me produis tout seul à l'Arsène Lupin le 14 octobre. Voilà.
D'accord, le 14 octobre à l'Arsène Lupin, que ça se dise.
Que ça se dise.
Que ça se dise dans les foyers. Merci Nico, tu reviendras à la fin de l'émission pour nous en chanter une autre très belle balade comme celle-ci, je l'espère. Vous êtes toujours sur Radio Mon-Pays, en direct et en direct aussi depuis le petit London à pas plus haut que le bord, bien évidemment. Alors, il y a aussi un blog hein, où on peut écouter, réécouter à l'envi les émissions. C'est pasplushaut.blogspot.com. Et là, vous pouvez réécouter toutes les émissions qu'on a fait depuis 2 ans. Et vous allez voir, c'est évidemment, il y a des émissions merveilleuses, évidemment. Hein. Pas vrai, monsieur CSP ?
Tu m'étonnes.
Et CSP ? Justement, ça, c'est le moment de sa chronique et si ceux qui ne connaissent pas CSP ici au Petit London vont se rendre compte que CSP, c'est pas n'importe quoi. CSP sans ses notes.
Ouais.
Alors, t'as oublié tes notes?
Non, je les ai pas oubliées, mais à la suite d'un complot de l'impérialisme bourgeois, mon imprimante est tombée en panne. Et donc je n'ai pas pu imprimer mes notes. C'est pour ça que je vais faire une chronique sans notes, sans rien, sans filet, sans contrôle, sans et sans chemisette.
Non.
Très bien. Donc bon,
de quoi vous voulez...
Non, c'est vrai, je n'ai rien devant moi. Là, les autres ils ont tous des tonnes de papier.
Des journaux.
Christophe, il a 10 cm de trucs devant lui.
Moi, j'ai 20 cm.
Laurent. Nous voulons voir.
Prétentieux.
On verra après l'émission.
Non.
Ça se discute.
Ah ben non, mais si on veut mériter notre titre de grosse tête de gauche, faut quand même y mettre un peu du sien.
Non, t'inquiète. Bref. Pas, je viendrai après.
Oui,
bon,
c'est
a priori, est-ce que vous connaissez Jean-Marc Rouillant?
Oui.
Non, mais tout le monde ne connaît pas.
Ouais. Bon. Bah, précise. Ah, bon.
Explique-nous.
Jean-Marc Rouillant, c'est ex-chef d'Action Directe, qui a été emprisonné pendant 17 ans. C'est ça, Eric? Pendant 17 ans au quartier de haute sécurité pour les assassinats de René Audran, général, inspecteur général de l'armement, et Georges Besse, directeur de chez Peugeot. Renault.
Renault, oui.
De chez Renault, à l'époque.
Enfin, ça a des roues, quoi.
Ça a des roues. Il faisait des voitures. Il est mort. Zut. Donc, 2 personnes. Donc, il y a effectivement Jean-Marc Rouillant a soit assassiné lui-même, soit commandité les assassinats de ces 2 personnes. Et il a fait 17 ans de prison et il a été libéré. Je crois savoir qu'il est plus tellement libéré maintenant. Je crois qu'il est toujours peu prou encore dedans. Mais bon, bref, il a fait son temps. Mais comme tu le disais, Christophe,
oui,
tout à l'heure, effectivement, il y a d'autres problèmes puisqu'il y a aussi d'autres morts à France Télécom.
Ah oui, ça oui.
Il y en a 23.
23 depuis un an et demi, quoi.
Voilà, 23 depuis un an et demi.
Ouais.
Et 23 contre 2. Si on poursuit, non, vous allez voir le cheminement de mon raisonnement.
On s'inquiète un peu, mais pourquoi pas. Allons-y.
Et Sim là-dedans, c'est où?
Non, mais Sim, ça compte pas.
Non, mais Sim, c'est les chanteurs morts, ça, comme Carlos. Ça compte pas.
Alors, donc, oui, 23 morts à France Télécom.
Et puis Henri Salvador, il était sarkozyste, c'est pas comme si c'était un vrai être humain.
Mais il est pas mort, Henri Salvador. Hein,
je pense. Ah, si, si.
Il est mort?
Tu peux revendre ta collègue Denis, c'est assez
bon. Hein. C'est bon. Vas-y, sur eBay, là, tu vas cartonner.
Je suis désolé.
Donc, d'un côté, si on m'excuse un petit peu cette comparaison morbide, certes, oui, mais qui sert à ma démonstration, nous avons 2 morts d'un côté et 23 de l'autre. Nous avons Jean-Marc Rouillan qui a été dûment condamné pour avoir lui-même commandité ces assassinats, et bon, ainsi que ses camarades d'Action Directe, dont certains par ailleurs sont encore en prison. Et d'un autre côté, nous avons Didier Lombard, dont tu parlais tout à l'heure, mais pas que lui, et ses 200 et quelques managers. Ah, des managers. Il faudra dire un jour à quel point il faut haïr ces gens. Managers, si vous m'écoutez, je vous hais. Voilà, je vous compisse. Hein. Vous êtes la lie de ce monde. Quand je serai au pouvoir, ça sera horrible ce qui vous arrivera. Mais bref, n'anticipons pas.
Oui,
non, n'anticipons pas. Et à vos familles aussi, ce sera affreux. Mais bref, hein, toujours n'anticipons pas. Donc, nous avons aussi ces gens-là.
Oui.
Didier Lombard et ses quelques 200 managers.
Et il y en a d'autres patrons.
Et il y en a d'autres aussi, mais il aura une théorie de quelques 200 managers qui sont formés à le management par la terreur et ce genre de choses. Oui. J'ai lu ça dans le Figaro.
Tu lis le Figaro
mais bien
tous
sûr.
Les matins.
C'est le meilleur journal pour. C'est le seul journal lutte de classe en France, le Figaro.
C'est ah oui.
Il n'est pas du bon côté.
Mais...
c'est ça. Mais le Figaro, c'est le meilleur moyen.
Alors moi, j'ai lu Le Monde, mais ça vaut pas quoi.
Non, mais Le ça Monde, ça vient pas. Après.
D'accord. Bon, tant
mais Le Figaro, le matin, au petit déjeuner avec ton café, c'est le meilleur moyen de voir direct ton shoot de haine, direct en pleine jugulaire, qui monte d'un coup comme ça te réveille.
C'est bon pour la productivité, donc pour le management.
D'accord, d'accord.
Mais ensuite, oui, on remarque les managers, ils doivent peut-être lire Le Figaro, tous les matins eux aussi. Mais bon. On objectera que ce n'est pas tout à fait la même chose, puisqu'effectivement, d'un côté, nous avons des assassinats avec préméditation, ce qui est exact, et d'un autre côté, un acte fort complexe et intime qui est un suicide. Mais un suicide, ça ne vient jamais comme ça, ça ne tombe jamais du ciel. Il y a un contexte, il y a des présupposés, il faut des enchaînements de choses pour que se passe un suicide. Or, toutes les analyses convergent dans le sens que ces suicides se sont passés à cause et dans le cadre du travail. C'est là qu'on retrouve Didier Lombard et ses 200 managers, puisque on pourrait penser que ce sont eux qui ont installé le cadre référentiel qui a laissé autoriser ces suicides. Et même plus loin que ça, on peut même penser que toutes les théories de privatisation et les chaînes de commandement en cascade qui ont créé tous les contextes qui peuvent acculer des gens à commettre l'irréparable.
Ça arrive donc pas par hasard, c'est ça que tu veux nous dire?
Non, ça n'arrive pas complètement par hasard.
Et ça arrive dans le travail, c'est étrange.
Et ça arrive dans le cadre du travail, dans le cadre d'un travail d'une entreprise qui est privatisée.
Depuis 96.
Depuis 96, et il y a des gens et des individus qui ont décidé ces privatisations, de la même façon qu'il y a des gens et des individus qui ont décidé ces théories de management par la terreur et par le stress.
Comme il y en a qui décident de la privatisation de la poste qui arrive incessamment.
C'est-à-dire que ce ne sont pas de... Là, on parle de décisions de gens, ce sont des décisions politiques, mais derrière des décisions politiques, il y a des êtres humains. Et ce qu'on tire le fil et les conséquences de tout ça, pourquoi ces gens qui, au final, ont une responsabilité, pour ne pas dire plus avant, une forme de culpabilité, indirecte, certes, moins directe qu'un Jean-Marc Rouillan, mais indirect néanmoins, pourquoi eux-mêmes, plutôt que d'être laissés tranquilles, si on vivait dans un monde à l'endroit, c'est-à-dire que ce n'est pas le cas en ce moment, vu qu'on vit dans un monde qui est complètement à l'envers, mais si on vivait dans un monde à l'endroit, ne pourrait-on pas les imaginer eux aussi, dans ces JT de 20h, descendre des quarts de police avec la veste sur la tête pour éviter qu'on les reconnaisse et qu'ils soient enfin traduits en justice pour leur juste et simple châtiment?
Oui. Faut avouer quand même que quand on imagine le PDG, le patron de France Télécom, effectivement, avec une cagoule sur la tête pour pas qu'on le reconnaisse. Mais en même temps, moi je trouvais qu'il avait, il y avait une cagoule virtuelle quand il a parlé à côté de du ministre, comment il s'appelle, Darcos. Il était quand il a dit que c'était une histoire de mode, la mode des suicides. D'une certaine manière, c'était tellement odieux et ridicule sa prestation que on sentait bien qu'on avait envie de lui mettre une cagoule sur la tête à ce type-là.
C'est un technocrate. Didier Lombard est un technocrate. C'est un pur produit de X polytechnique. C'est tous ces polytechniciens sans âme qui ont été au fur et à mesure des années, se sont occupés des services publics et ont été grignotés par le libéralisme et qui se retrouvent dans les situations d'être PDG d'entreprises privatisées.
Oui, oui, bien. Et on peut s'inquiéter là.
Tout en restant fonctionnaire, je tiens à le préciser. Parce que les premiers à vouloir détruire le statut des fonctionnaires sont des hauts fonctionnaires qui, eux, le restaurant. C'est-à-dire qu'on touche les fonctionnaires hospitaliers, les fonctionnaires d'État. On réduit, on casse les statuts, les fonctionnaires territoriaux aussi. Mmh. Mais finalement, le haut fonctionnaire qui a décidé ça, qui partira quelque temps aussi dans une grande entreprise, faire son beurre, toucher quelques...
Ouais, juste pour la retraite.
Oui, juste pour la retraite, avoir quelques parachutes dorées aussi. Quand ils reviendront ou quand on les mettra dehors pour incompétence, ils retourneront dans la fonction publique. Comme beaucoup de gens de droite, d'ailleurs, qui sont députés. Comme par exemple aussi, vous rappelez de ce petit, comment on appelait ça, ce petit, je crois que c'était, vous savez, dans Austin Power, il y a Mini-moi,
oui.
Et il y avait le Mini-Adolphe, qui s'appelait Bruno, je ne sais plus trop quoi, qui essayait à un moment de faire un parti, qui prenait, je ne sais plus trop quoi. Figure-toi que cet homme-là qui vilipendait la France, la gabegie dans la France socialo-communiste, voilà, la socialisation des moyens de production immondes et tout ça, quand il a été foutu dehors de ses mandats d'élu crypto-fasciste, on va dire, il est redevenu fonctionnaire du ministère de l'équipement. On lui a retrouvé un poste, attention, à la hauteur de son niveau, mais sans commandement, sans rien avoir à faire. Il était dans un placard, payé beaucoup plus que tu toucheras dans l'année. Et voilà, il a des droits à la retraite qui courent et tout ça. On en entend plus parler, je crois que s'il refait des petits groupes avec des petits copains à lui qui ont des jolis Harrington et des petites togs. Les fonctionnaires.
Ah, c'est intéressant ça, c'est intéressant.
On a raison de les haïr parfois, hein, du coup. Hein.
Oui, c'est aux fonctionnaires là, oui. Laurent ?
Je te sens.
T'as envie de dire quelque chose sur les hauts fonctionnaires.
Tu es fébrile là.
Hein, moi, je suis un bas fonctionnaire.
Hein, tu vis. Mais toi, t'es un bas fonctionnaire.
Je suis un fonctionnaire. Il a parlé de mon ministère en plus, donc ça m'a touché.
Oui, pourtant, on espérait faire quelque chose de toi, mais t'es comme bas fonctionnaire finalement.
Oui, j'essaie d'être un haut fonctionnaire, mais je sais pas comment il faut faire. Quoi.
Moi, quand même, j'aimerais bien qu'on parle de 2 minutes, puisque on a le temps nous est compté, mais on peut avancer encore dans la discussion. La semaine dernière, tout de même, il y a eu une défaite considérable sur Midi-Pyrénées, c'est la défaite des Molex. Hein. Et moi, j'ai envie quand même de saluer ces travailleurs qui se sont mis en grève, qui se sont bagarrés pendant 11 mois pour conserver leur outil de travail, alors que un grand groupe américain avait décidé comme ça de les dégager, alors même qu'ils étaient rentables et qu'ils étaient même l'établissement industriel le plus rentable du groupe, ce qui est quand même extraordinaire. Donc ces travailleurs de chez Molex aujourd'hui vont être licenciés, et effectivement on a eu une sorte de, je sais pas comment dirais-je, de folklore là médiatico-gouvernemental avec le ministre Estrosi qui nous a expliqué que oui, on commençait à 15 personnes qui allaient être gardées et puis on terminerait à 300 évidemment. Bon, on sait aujourd'hui que c'est évidemment pipeau. Il y en a certainement peut-être 15 qui vont conserver leur emploi pendant quelques temps, mais finalement pas beaucoup. Et l'État n'a rien fait. Eric ?
Il y a quelque chose qui m'a fait rire aussi tout à l'heure. Je regardais une chaîne très très drôle qui s'appelle La chaîne parlementaire. Pour les débats politiques.
C'est vrai que ça me fait marrer, cette
chaîne. Ouais, non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, les problèmes de la France sont des problèmes juridiques, techniques, de commission.
Oui.
C'est pas ce que dit CSP. CSP, il essaye de politiser, il est victime de l'idéologie.
Oui, oui, c'est bien.
Oui, bah oui, oulala.
Tandis que M. Larcher a quand même dit une chose. Alors voilà, il y avait le président du Sénat, M. Larcher, qui a dit une chose très très importante. Il était devant l'Assemblée des départements de France. Moi, en ce moment, je me dis que c'est quand même intéressant de savoir ce qui va se passer. Alors, il a dit une chose fabuleuse sur la. Alors, il n'a pas parlé de la taxe carbone, il a parlé de la taxe professionnelle. En disant que, finalement, la suppression de la taxe professionnelle, ça allait être quelque chose de fabuleux. Parce que c'est actuellement le plus grand frein à la productivité, à l'embauche des entreprises françaises.
Mais évidemment.
Parce que le problème, les entreprises ne recrutent pas, les entreprises s'en vont parce que la main-d'œuvre est trop chère, parce qu'ils ne font pas assez de marge bénéficiaire. On devrait le dire au Molex.
Oui,
que finalement,
oui.
Si on avait relevé plus tôt la taxe professionnelle.
Peut-être qu'ils auraient conservé.
Et ça, c'est quand même assez drôle de dire qu'en France, finalement, les entreprises ne font pas de bénéfices et qu'elles sont obligées de licencier. Alors quand on voit que les derniers luttent, les Conti, je parle aussi de Ford,
Blanquefort à, oui, vers Bordeaux, ce qui, oui, me tient un peu à cœur personnellement. Et ce genre de truc, ce sont des gens quand même, des entreprises rentables, il faut le dire, qui, oui, font des retours sur investissement qui sont quand même plus qu'intéressants. Mais c'est pas assez.
Et quand même, vous êtes pas un peu surpris que les médias, la télévision nationale, et pas plus relayer ces questions-là, ces problématiques-là? Ils ont parlé évidemment des, ces, quand ils ont à l'époque où ils ont séquestré 26 heures Kerio, justement. Ah, ça, on en a parlé. Mais par contre, de dire que l'entreprise était rentable, on n'en a pas parlé. Du rapport Syndex, parce qu'il y a eu un rapport extrêmement détaillé d'un cabinet indépendant qui a démontré que l'activité à Villemur-sur-Tarn, elle était rentable. Eh bien, ça, on n'en a pas entendu parler. Bon,
ben non,
ben nous, on en parle sur Radio Mon Pays.
Non, mais le problème, c'est qu'on fait pas de la vraie politique entre nous là.
Non,
c'est, oui, vrai. Nous, non, on s'amuse, vrai, on a,
c'est l'idéologie.
Voilà, c'est l'idéologie. Parce surtout, que, vraiment, ce qui intéresse les Français actuellement, c'est la taxe carbone,
oui,
les primaires, et savoir ce que va dire Cohn-Bendit.
Et non, il y a quand même aussi Giscard. Giscard, est-ce qu'il a fait des coquilleries avec la princesse?
Vous avez remarqué
Clearstream aussi.
Ah oui, il y a Clearstream aussi. Oui, non, mais c'est quand même un peu moins croquignole que Giscard. Attends. Vous imaginez quand même le grand dadé là avec la princesse. Non,
en train de choper la,
moi j'y crois pas.
Non, non, mais moi j'y crois fortement parce qu'il y a un indice qui trompe pas. Ce matin dans France Inter, il disait que finalement c'était... Il avait écrit ce livre, c'est un livre, hein, ouais.
Ouais,
et
ouais.
En fait, il avait écrit ce livre de mémoire. Mmh. C'était des mémoires. Alors,
d'accord.
Il y en a qui sont sans papier, comme ça se fait, d'autres qui sont sans mémoire, j'ai l'impression. Comme...
C'est ça.
Parce qu'en fait, il disait qu'en fait, c'était. Voilà, on se posait des questions. Est-ce que c'était vrai? Est-ce qu'il a quitté les Didi? On ne le sait pas. Et finalement, on disait qu'il y avait quand même. C'était dans ses mémoires, voilà, il nous cacherait des choses. Finalement, il embellissait un petit peu, justement, son mandat. Puis finalement, ils se sont rendus compte que, finalement, on pouvait se poser des questions sur la véracité du livre, parce que finalement, dans son livre, le président fait un deuxième mandat.
Oui. Ah, oui, c'est vrai, c'est ça. Et comme quoi, hein, ça intéresse Eric vachement plus que les Molex.
Non, tu peux pas dire ça.
Non, je peux pas dire ça. Je retire.
D'autant plus que tu as dit une énorme contre-vérité, Eric, puisque ce ne sont pas les charges sociales qui empêchent l'embauche, c'est le SMIC.
C'est le
SMIC, c'est le salaire minimum.
Oui.
Il faut abroger. Mais ça, c'est l'étape suivante.
Ah oui, oui, c'est vrai. C'est
moi,
vrai,
je pense qu'il faut abolir, c'est le salaire.
Oui, c'est vrai. Si, non, les, ça, si c'est les gens pouvaient travailler gratuitement, ça serait bien quand même. Bien, maintenant.
C'est ça, être d'avant-garde, personne ne nous écoute.
Oui, c'est bien ça le problème.
Attention.
Nous avons là un moment assez difficile, quand même. Il faut le dire. Parce qu'il y a une chronique qui va arriver, qui est une chronique qui nous effraie tous. À chaque fois, on craint le pire.
Parce que nous avons raison de le craindre.
Mais oui, mais parce que
Laurent.
Parce que des jeunes filles se dénudent devant nous, arrachent leurs vêtements et or, nous sommes contre ce genre d'exhibition.
Allez, Christelle.
Et évidemment, vous avez tous reconnu la chronique de Laurent, hein, la chronique. De...
C'est comme.
Ah, oui, non, Laurent. Si, ça commence, il y en a une qui enlève son pull, là.
Ça va être bon.
Bonsoir. Alors, je vais vous parler ce soir du bonheur.
Ah,
enfin.
Alors, bonheur. Nom masculin signifiant un état de plénitude stable. Le bonheur se distingue du plaisir par son état durable. Pour l'exemple, Michael Jackson avait le bonheur d'être le roi de la pop pour les plus âgés d'entre nous et le plaisir d'être le roi de la pipe pour les plus jeunes. Bonheur comme heureux est composé du mot bon et celui plus rare heure, dérive phonétique du latin augurium, augure, qui en vieux français signifie chance.
Il a bossé.
Ce heure que l'on retrouve encore aujourd'hui dans l'expression je n'ai pas l'heure de plaire à quelqu'un, qui signifie je n'ai pas la chance de lui plaire, phrase qui pourra toujours vous servir lors de vos prochaines JMJ, comme elle peut me servir ce soir pour étoffer une chronique radio peu inspirée. Ainsi donc, bonheur dans son sens propre signifie bonne chance. Alors vous voyez, c'est pas gagné le bonheur, mais je vous aurais prévenu. Le bonheur, sujet bien délicat à traiter en moins de 5 minutes ici, d'autant plus que je ne suis ni philosophe ni sociologue.
Ça serait.
Oh, ça serait, exactement, merci Christophe. Mais après tout, le fait de ne pas être sexologue ne m'a jamais empêché d'avoir un avis sur les gros nichons de ma voisine du 7e, tout comme mon opinion sur Nadine Morano, alors que je ne suis pas proctologue. Proctologue, je le rappelle, du grec logos, la science, et procto, trou du cul. Mais ce soir, je voulais vous parler du bonheur, car dorénavant, on va pouvoir le mesurer. C'est en effet lundi dernier que Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie.
Ah ben voilà, c'est pour ça, tout s'explique.
Là, c'est plus la classe déjà. Ouais. A remis à Nicolas Sarkozy son fabuleux rapport pour un calcul plus intelligent de la richesse nationale, avec pour indice d'évaluation celui du bonheur du pays.
Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait l'histoire. C'est un rapport avec le proctologue. Non, il y a pas un truc avec le truc.
Pas comme ça, moi, Christophe.
Non, j'ai craint le pire.
Deux ans de travail pour chier un rapport de 12 propositions que l'évaluation de la richesse d'une société ne se résume pas au sacro-saint PIB, mais intègre aussi la santé, l'éducation, l'environnement, bref, des activités non marchandes.
Non.
Le BNB. Non, ne frissonnez pas, messieurs les financiers crapuleux, ce n'est pas une nouvelle banque dans laquelle vous pourrez à nouveau vous remplir les poches en suçant jusqu'à l'orgasme les pauvres bourses des gens honnêtes et miséreux. Il s'agit seulement du bonheur national brut. Jusqu'alors, je le rappelle, pour celles qui avaient séché les cours d'économie pour aller mouiller vos culottes sur Dirty Dancing, petit clin d'œil à
Patrick Swayze.
On peut regretter Patrick Swayze. L'activité économique et la bonne santé d'un pays se mesure par un indicateur qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut.
Oui.
PIB dont tout le monde s'accorde pour dire qu'il devient un indicateur insuffisant. Certains, prenant l'exemple de la Guinée équatoriale.
De la Guinée.
J'adore Guinée. Non, c'est la Guinée.
Ça dérape un peu là, ça glisse peut-être.
De la Guinée
équatoriale alors.
Équatoriale.
Enchaîne.
Dans l'indice, grâce à sa production de pétrole, est égal à celui de la Grèce, alors que dans ce premier pays, la mortalité infantile y est 5 fois plus élevée.
Ah oui.
Voilà. Alors, bref.
On sait jamais quand c'est sérieux et quand ça l'est pas avec.
On ne sait jamais sérieux.
Le truc, c'est trop marrant, trop fun et les enfants morts.
Non, mais tout. Donc, toutes mes sources sont bonnes, je ne dis que des vérités. Bref, il est temps d'agir, surtout que, apparemment, nous, la France, ça nous arrangerait qu'on ait un autre indicateur, peut-être plus flatteur. Et pof, voilà qu'on nous pond cet indicateur de bonheur. Je ne vais pas rentrer dans le détail du rapport Stiglitz, mais voici les quatre chapitres qui ressortent et qui vont aider à calculer notre bonheur. Mon fils, écoute bien, tu seras heureux si tu vis dans un pays, petit homme, où on vit en paix et en sécurité. Bon, moi, je préférerais qu'ils nous foutent un peu la paix avec la sécurité, mais bon.
Ouais.
Petit 2, où on vit en liberté et en démocratie, où les droits de l'homme sont respectés. Merde, on va perdre encore des points. Encore que dans notre pays, je m'étonne encore qu'on ait besoin d'une vidéo volée pour se rendre compte qu'un ancien ministre de l'identité nationale rime avec Front National. Petit 3, dans un pays qui connaît une qualité de la vie importante. Alors, c'est quoi la qualité de la vie ? C'est nous amuser avec nos peurs intrinsèques en nous rabâchant de nous laver les mains 10 fois par jour parce que sinon on va tous mourir. Et Roseline, pour les agents de France Télécom, on fait quoi pour la qualité de la vie?
Ben,
on fait pareil, on s'en lave les mains. Ah bon? Je rappelle quand même.
Grande forme.
Oui, là, il est très fort. Là.
Je rappelle quand même à toutes fins utiles le score en France métropolitaine, on en parlait tout à l'heure. Grippe A, 6, France Télécom, 23. La grippe n'a même pas le bonus défensif et on veut tous le mettre en quarantaine, les gars. Merde, bon, les gars. Petit 4, dans un pays où la recherche, la formation, l'information, la communication et la culture sont partagées par tous en ce moment, c'est surtout de l'emploi qu'on recherche. Hein,
il paraît.
Voilà donc pour les 4 chapitres et dans chacun de ces chapitres, 10 indicateurs. Exemple pour la qualité de vie, on prend en compte l'espérance de vie à la naissance, la surface forestière par habitant, la pureté de l'air ou pour la démocratie, on tiendra compte de la peine de mort ou des droits des femmes.
Ah bon ? Le droit des femmes ?
Ouais, j'ai pas voulu faire de blague là-dessus. Il faut savoir qu'il existe déjà des indicateurs similaires, notamment celui de Pierre Leroy, fondateur de la revue Globe Echo, qui s'approche de celui du rapport Stiglitz.
Enchaîne.
Ainsi, chaque année, Globe Echo établit un classement des pays les plus heureux et on y apprend qu'en 2007, les lauréats sont la Norvège, la Suède, les Pays-Bas et le Danemark. Plus t'as les couilles gelées, plus t'es heureux. Je sais pas si t'as remarqué, mais. La France est 16e, les USA 20e et pour info, le Venezuela 33e.
Oh, bah oui.
Et qui est le dernier ? Pays où on est le plus malheureux au monde.
Ouais, ça va jusqu'à 60 en fait, donc il n'y a pas tous les pays. Il y a également les indicateurs de l'anglais Adrian White et du batave Ruth Venven qui ont eu une idée absolument incroyable pour déterminer le bonheur des gens. Ben, c'est de leur poser directement la question aux gens. Êtes-vous heureux?
C'est fou ça. C'est fou. Incroyable.
Alors, et là c'est marrant, mais dans cet indicateur, la France recule à la 39e place. Tu vois, on était 16e, on est 39e. Ouais. Alors demandant. Autant vous dire que ce type de classement n'est pas beaucoup pris au sérieux par les autorités. Alors bien sûr, l'idée d'une mesure quantifiant le bien-être peut être discutable et légitime, mais le truc qu'on puisse mesurer, calculer mon bonheur, moi ça me fait super flipper. C'est tellement difficile de définir le bonheur tant les critères et les préoccupations peuvent être fondamentalement différentes selon les sociétés, les religions, le statut social, le sexe et surtout c'est tellement personnel le bonheur.
Oui.
Ainsi on pourrait parler des heures sur la perception du bonheur ou toupie ou pas en citant Durkheim, Kant, Aristote ou encore Kali, hein, c'est quand le bonheur. Faire un café philo autour d'un thé au jasmin en se prenant pour bec bédé entre de rails de coque, mais ça ne m'intéresse pas. Et surtout, pas le quantifier. On se croirait dans un mauvais test de Cosmopolitan. Pourquoi pas calculer sa frigidité, l'odeur de ses pets ou le joli sourire de la maraîchère du marché de Brive-la-Gaillère de Tanconnier. Après Madoff et en pleine crise dégoulinante, on espérait être entré dans la ménopause d'un système que l'on subit encore, non, il me manque un mot, mais on continue à guider nos pas, nous imposer nos jeux, à brimer nos plaisirs, à étouffer petit à petit notre trop indécent et dangereux bonheur. Encore une histoire à la con pour nous faire croire que le bonheur est pour ceux qui se lèvent de bonne heure. Mais avant de partir un jour, comme le chantait si pertinemment Philippe des Toubifrits, je veux encore croire au seul indicateur qui me semble essentiel, celui de mes émotions ardentes, de mes fébriles troubles, celui d'un cœur qui bat aux premières chaleurs d'un baiser printanier, celui d'un corps qui réchauffe aux premières brumes automnales. Je veux laisser les maths aux marchands macabres de mon heure et garder la poésie des frissons. Moi, j'ai pas envie qu'on m'explique, qu'on intellectualise, qu'on calcule mon bonheur. Je veux juste le vivre, c'est tellement exaltant un bonheur dans son corps. Si vous voulez, prenez un mètre pour mesurer ma bite, mais allez vous faire mettre pour mesurer mon bien-être. Et ça, vous est jamais venu à l'idée de dépenser votre énergie et notre pognon pendant 2 ans pour savoir comment on peut être plus heureux plutôt que de savoir combien on est heureux? Mais il est tellement plus bandant de nous dire qu'on va tous crever demain si on ne veut pas obéir. Allez va, malgré tout, je reste optimiste et quant à l'avenir, ne dit-on pas que le bonheur est dans l'après.
Oui. Ovation générale est méritée.
Ouais, voilà, ovation générale, évidemment, évidemment.
Quel talent.
Je suis bouleversé.
Bah ouais. Un autre qui a un talent fou, incroyable. Alors,
je veux quand même qu'on compte mesurer la bite.
Non, on jouera à ça plus tard, les enfants, dans la cour d'école. Alors, avant de nous quitter, parce qu'il nous reste peu de temps, une dernière petite chanson de Nico. Nico Nito ? Es-tu là ?
Je suis là.
Qu'est-ce que tu vas nous chanter là ?
Je mets mes lunettes et je chante une chanson de Nico.
Oui, bah oui, ça s'impose. Pour mettre les lunettes, il faut ça.
Du velvet.
C'est là.
If you close the door, the night could last forever. Leave the sunshine out and say hello to never. All the people are talking and they having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I never have to see the day again. Oh, if you close the door, night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Someday I know someone will look into my eyes and say, hello, you're my very special one. But if you close the door, I'll never have to see the day again. And people and subways and train, looking grey in the rain, at the stand in the rain. A people look well in the dark. And if you close fun, but if you close the door, never have to see the day again. Never have to see the day again.
Oui, bravo. Bravo Nico. Superbe, c'est vraiment magnifique. Rappelons donc que tu te produiras le 14 octobre.
C'est cela, oui, le 14 octobre à l'Arsène Lupin à Toulouse. Et le 15 octobre. Myself and my band Nelson Tsubab sortent un disque qui s'appelle La sagesse d'un ange ou Un petit traître fragile qui sort en novembre, qui sera distribué dans toute la France.
Oh là là, bravo.
La Corse.
Eh bien, vous voyez. Ça valait le coup quand même, c'est quand même pas mal, hein, Nico Nito. Hein. Alors, moi j'aime bien, je suis fan. Eh bien, nous touchons à la fin de notre émission. Je tiens à rappeler quand même que vous pouvez réécouter nos émissions sur le blog papluhaut.blogspot.com. Oui ? Oui, monsieur CSP. Ah,
non, c'est juste que je suis très triste parce que là, on va tous se séparer, rentrer dans nos maisons et non, on va se brûler.
Non, on va boire un coup.
On va continuer la fête au Petit London. Je remercie aussi, Yann du Petit London pour nous avoir accueillis. Merci Yann.
Bravo Yann. On reviendra.
Merci aussi à Chabi pour nous avoir installé tout le matériel. Ça a bien fonctionné. Bravo Christelle, la reine des manettes.
Christelle.
Merci à Serge pour sa chronique Amérique latine.
Merci, oui, avec plaisir.
Merci à CSP pour sa chronique improvisée.
De rien.
Merci à Eric pour sa présence et ses commentaires avisés. Je vous rappelle que nous étions sur Radio Mon Pays 90.1 et que nous revenons les deuxième et quatrième mardi du mois de 20h.
Moi, tu me dis pas merci. Moi, j'ai plus le rat.
Il t'avait gardé pour la feuille.
Mais non, j'ai fait le chronique de merde, c'est ça. Mais... Qu'est-ce qui se passe?
Écoute,
Christophe, dis-moi.
J'en ai marre. Toutes les filles s'arrachent leur chemisier juste en écoutant tes paroles. Donc, forcément, je suis jaloux. Regarde Christelle, ça y est, elle a tombé la chemise. Non, Christelle, arrête-toi là, s'il te plaît.
Ah non. Non, rien. C'est bien la radio, hein, on voit rien.
Ouais. Eh bien, merci à ce cher public aussi, et nous reviendrons d'ici 3 semaines. Salut et à très bientôt.
Merci.